Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour votre chronique hebdomadaire. Alors, étant donné que vous n'êtes pas là la semaine prochaine, on va essayer de profiter de vous un maximum aujourd'hui. Vous vouliez nous parler de Gérald Darmanin, qui était en Algérie hier, pour tenter de rétablir de bonnes relations entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Oui, bonjour Alexandre de Galzin. Oui, écoutez, je viens de l'écouter parce qu'il était interrogé ce matin sur Europe 1 et mon impression demeure que d'une sorte de déséquilibre depuis le début, de déséquilibre en notre défaveur dans les relations entre l'Algérie et la France. Et là, c'était la troisième visite gouvernementale depuis le début de l'année, après celle du ministre de l'Intérieur et celle du ministre des Armées. Or, la France, et a écouté encore Darmanin ce matin, se révèle incapable d'imposer la règle élémentaire dans le fond, dans diplomatie et dans tous les marchés, qui est celle de la réciprocité. Alors certes, hier en tout cas, Darmanin a évité de perpétuer l'erreur qu'il avait commise en 2020 d'aller déposer une gerbe devant le monument des martyrs, c'est-à-dire de s'incliner devant les combattants du FLN qui avaient combattu des Français, en usant d'ailleurs parfois de méthodes terroristes. Donc, naturellement, mais en même temps, il n'a pas non plus rappelé quel avait été le sort des pieds noirs ni des harkis. Mais en tout cas, je remarque qu'il n'a pas réussi non plus, en tout cas, à obtenir des résultats concernant les extraditions possibles des commanditaires de la DZ Mafia, et ceci est un véritable scandale, car on s'aperçoit que cette DZ Mafia, c'est-à-dire ce narcotrafic qui maintenant gangrène toute une partie de Marseille, du sud de la France, et qui va même jusqu'à maintenant s'établir dans les faubourgs parisiens, cette DZ Mafia est une intrusion quasi politique aujourd'hui au cœur de la France, dans la mesure où à travers ces corruptions de fonctionnaires qui peuvent aller jusqu'à des corruptions de douaniers, voire même de juges. C'est la démocratie elle-même qui est aujourd'hui ébranlée. Et de ce point de vue, je n'ai pas entendu, en tout cas ce matin, que Gérald Darmanin ait sonné l'alarme sur effectivement ce point politique qui permet aujourd'hui à l'Algérie d'influer, alors d'une manière ou d'une autre, à travers ces mouvements, ces installations de narcotrafic. Et donc, cela me paraît effectivement bien grave de voir que la France ne répond pour l'instant qu'à travers des salam alek à nouveau. Et j'ai entendu M. Darmanin nous dire qu'il y avait toute confiance en M. Tebboune. Moi, j'aimerais que la France fasse davantage preuve d'autorité et de réalisme face à l'Algérie. Parce qu'en fait, au bout du compte, la France ne cesse d'avoir la main qui tremble dès qu'il s'agit d'avoir des rapports, non seulement avec Alger, mais qu'il s'agit d'avoir des rapports avec le monde arabo-musulman. Parce que c'est ceci également qui me semble évident, et la France n'arrive toujours pas à récupérer, par exemple, ses OQTF, n'arrive toujours pas d'ailleurs à récupérer Christophe Glaize lui-même, notre confrère qui est détenu maintenant en Algérie. Et c'est Macron, très récemment, qui disait de ceux qui voulaient un bras de fer avec l'Algérie qu'ils étaient des maboules, pour reprendre son terme. Quand il disait des maboules, il visait là naturellement Bruno Retailleau, qui lui était un partisan plutôt du bras de fer contre l'Algérie, et du bras de fer plus généralement d'ailleurs contre un monde arabo-musulman qui impose aujourd'hui son immigration, sa culture et ses mœurs. Et c'est cette faiblesse au nom de l'apaisement. On sait ce que l'apaisement a pu produire comme calamité lors de la dernière histoire, lors des dernières histoires de la guerre mondiale. C'est cette faiblesse qui est préoccupante, dans la mesure où notamment l'immigration, et singulièrement l'immigration musulmane, devient partout un sujet central. On a vu que, par exemple, le week-end dernier à Londres, une foule assez considérable s'était mobilisée pour dénoncer ce phénomène migratoire à l'invitation de l'activiste Tony Robinson. Le 11 mai, le département de l'État américain a remis en question le pacte de Marrakech de l'ONU sur l'immigration, en accusant l'ONU de promouvoir une immigration de remplacement et en allant même jusqu'à demander la remigration. c'est-à-dire le retour chez eux des étrangers indésirables. En France, il n'y avait jusqu'alors qu'Éric Zemmour, inspiré par Renaud Camus, pour avoir osé formuler cette proposition. Or, c'est cette radicalisation qui, me semble-t-il, maintenant est demandée par une partie de l'opinion qui a fait le tour précisément de l'apaisement et de ses perversions, dans le fond.
Et Yvan Rioufol, je lisais justement ce matin un article de Xavier Driancourt paru dans la Nouvelle Revue Politique sur la question de l'Algérie, qui expliquait aussi quelque chose qui est sans doute méconnu et assez, enfin en tout cas que moi j'ignorais et que je trouve assez intéressant, c'est que Gérald Darmanin était un des seuls à s'être opposé, en tout cas au centre et à droite, à s'être opposé à l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, et justement qu'il était vu en cela par Alger comme étant plutôt le meilleur candidat possible pour 2027. C'est aussi quelque chose qui interroge d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on sent que Gérald Darmanin, peut-être, enfin, en tout cas c'est l'analyse de Xavier Driancourt, utilise ce voyage en Algérie comme une sorte de tremplin.
À voir, parce que je l'ai entendu tout à l'heure dire malgré tout, alors amender sa position sur l'accord de 68, car il est convenu que cet accord devait malgré tout être revu. Mmh. Donc je n'ai pas vu quelles étaient ses dernières déclarations, mais en tout cas, ce matin, pour l'avoir entendu, il a rappelé aussi que son grand-père était un tirailleur algérien. Oui. Il n'a pas dit que son deuxième prénom était Moussa, mais enfin, il le rappelle suffisamment pour dire que lui-même a des racines algériennes. Et donc, de ce point de vue-là, il, à travers sa filiation même, il donne des gages, effectivement, de bonne volonté à un régime autoritaire qui ne cesse que de demander à la France des courbettes et des salam alek. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit l'homme politique le plus représentatif de ce qui devrait être une autorité face au régime algérien, et surtout, je trouve qu'il représente en fait d'une manière assez désespérante ce qui est reproché maintenant aux Français dans tous les sondages, en tout cas à travers leurs dirigeants, quand ils voient chez eux d'abord une lâcheté, alors que il me semble que l'opinion est plutôt demandeur de résistance. Un peu partout en Europe, c'est-à-dire que l'on voit que les souverainistes, par exemple, sont aux portes de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France. On voit que cette idée de remigration, justement, c'est-à-dire du rapatriement des clandestins, des délinquants étrangers, voire même des chômeurs, est une idée qui ne s'arrête plus à la seule expulsion des OQTF, qui d'ailleurs pour l'instant n'est pas effective, mais qu'elle commence à s'imprimer au cœur des discours politiques, pas simplement aux États-Unis, comme je l'ai évoqué tout de suite, mais également au cœur même de la société européenne et de la société française, parce que l'on voit que, dans le fond, à travers cette remigration, c'est bien une lutte contre une décolonisation, pour reprendre la démonstration qui avait été celle de Renaud Camus, d'ailleurs.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, dans une France où un tiers des Français ont au moins un grand-parent étranger, est-ce que vous pensez que l'opinion est prête, justement, à la confrontation avec d'autres États étrangers qui iraient ouvertement contre les intérêts de la France ?
Oui, c'est surtout le sentiment que me donne effectivement cette irritation de l'opinion face à cette pusillanimité. Je vois que l'opinion est quand même traversée par ce que j'avais appelé cette révolution du réel, c'est-à-dire que les faits maintenant parlent d'eux-mêmes. Et quand, par exemple, quand je lisais dans Libération, par exemple, que l'immigration, ce n'était pas l'immigration qui remplissait les prisons, mais que c'était la pauvreté. On voit bien que ce sont des discours déconnectés, des discours idéologiques.
Ce qui ne change rien au fond du problème, dans le sens où, si c'est la pauvreté qui remplit les prisons, pourquoi importer autant de pauvres ?
Oui, absolument. Et puis vous rendez compte également, d'ailleurs, que même l'opinion se raidit sur les questions, sur ces accusations qui étaient lancées jusqu'alors, par exemple en islamophobie, qui interdisait d'appréhender la moindre critique formulée contre l'islam et contre l'islamisme et ses pratiques terroristes. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était intéressant, à Cannes, là on était quand même dans le berceau du conformisme, à Cannes vous avez toute une salle de 2000 personnes qui a applaudi debout au film consacré au dernier jour de Samuel Paty, L'Abandon, ouais. D'ailleurs c'est un film que je recommande. Et il est intéressant de voir que ce public, qui est vraiment éminemment conformiste et sensible aux propagandes victimaires de l'islamo-gauchisme, n'est pas tombé dans le piège. Cela me fait dire que vous avez quand même, dans une partie de l'opinion aujourd'hui, une sorte de réalisme, de lucidité qui apparaît et qui me fait dire que nous assistons là, enfin du moins je l'espère, à une sorte de réveil des somnambules face à des idéologues qui ne peuvent plus dissimuler le monde fictif qu'ils nous proposent, voire même le monde mensonger. Et donc, un peu partout, je trouve que les esprits sortent de leur léthargie. En tout cas, je l'espère et c'est ce que je vois. Et je le vois d'autant plus que cela désespère justement le progressisme qui n'arrive plus à imposer son récit officiel. J'ai entendu, par exemple, le chef de la police c'était dans le Figaro récemment de dire qu'il n'y avait pas de zone de non-droit, alors même que des gangs continuent à tuer des adolescents à Nantes très récemment. J'entendais le ministre de l'économie nous dire que l'économie française résiste, alors que tous les spécialistes nous disent que l'économie française est en train de s'effondrer. Donc on voit bien que tout ceci n'est pas très sérieux et que les plus personne d'ailleurs ne fait confiance à ce discours politique. C'est ce qui me fait dire en effet que il y a un appétit, en tout cas, de vérité de la part de l'opinion qui ne correspond plus avec les discours convenus. Et donc, l'erreur du monde politique, d'ailleurs, est de croire que en perpétuant une politique de la conciliation, de l'apaisement, comme le fait Darmanin, on pourra sortir la France de ce marasme. Je crois que le moment est venu de renverser la table. C'est maintenant le mot d'ordre qui traverse un peu tous ceux qui ont pris conscience des faiblesses françaises, et de renverser la table, cela veut dire effectivement de rompre avec ce fonctionnement de l'apaisement qui est celui qui est prôné par Darmanin, qui est celui qui est prôné par le Bloc central. Je pense qu'on arrive maintenant à un moment de rupture. Et il va falloir le formuler de la part des hommes politiques les plus courageux.
Et ben on va finir sur cette note d'espoir. Merci beaucoup à vous, Yvan Rioufol, d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite. Et on vous dit donc à dans deux semaines.
Merci.
Et tout de suite, je laisse l'antenne à Richard de Sèze pour l'analyse avec Mériadec Raffray.
Ligne Droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Bonjour chers auditeurs, à nouveau, et bonjour Mériadec, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef monde de Valeurs Actuelles, et vous n'avez pas de cravate, effectivement, Alexandre n'a pas de cravate, je n'ai pas de cravate, c'est une journée sans cravate, c'est comme ça tous les 19 mai à Radio Courtoisie.
C'est une tradition.
C'est une tradition, ouais. Je ne peux pas révéler les tenants et aboutissants de cette tradition secrète, mais voilà.
Alors, il y a une autre tradition, c'est qu'on parle tous les mardis matin à 9h de politique internationale, cher Richard.
Effectivement, et nous avons décidé, évidemment, de parler de Russie et de Chine et des États-Unis, parce que, Xi Jinping recevait Donald Trump, Xi Jinping va recevoir Vladimir Poutine. Commençons par le bilan de la visite de Trump en Chine.
Alors, comme d'habitude, dans ce type de rendez-vous, il y a ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit. Et en fait, on apprend au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Nous sommes quasiment encore à la veille de ce sommet des deux grands mondiaux qui a eu lieu les 14 et 15 mai dernier, c'est-à-dire jeudi et vendredi dernier. Donc, c'est encore un peu tôt pour avoir un bilan exhaustif, en fait, de ce sommet, mais on peut déjà en tirer un certain nombre de leçons et pour peut-être les tirer les unes après les autres, je vais reprendre l'expression de l'universitaire français Gilles Kepel que je suis régulièrement, et il disait, et c'est son avis, donc c'est intéressant, le sommet de Pékin acte que le règne de l'hyperpuissance américaine est achevé. C'est-à-dire que pour Gilles Kepel, en fait, les signaux envoyés lors de ce 6 mai, sommet qui nous ont été renvoyés, penchent plutôt pour un sommet déséquilibré, et cette fois en faveur Sphinx Xi Jinping. Sphinx, car quand on voit en fait les deux hommes côte à côte, ce sont deux menhirs, de monstres, de rochers, mais en même temps il y en a un qui est apparu finalement calme, et l'autre assez vibrionnant, si vous voulez, et c'est une forme aussi de déséquilibre physique entre les deux hommes. Et pour commencer peut-être ce bilan, il faut quand même rappeler qu'avec Trump, lorsqu'il se déplace à l'étranger, contrairement à ce que certains croient, tout est d'abord commercial, tout est d'abord du business. C'est le business first, comme disent les Américains. Et d'ailleurs, Trump avait invité à le suivre à Pékin, cette fois, comme il dit, le top, c'est, je reprends son expression, le top des grands patrons américains. Il y avait Elon Musk, il y avait Sam Altman, tous les grands businessmen américains, et en particulier ceux de la big technology, ce qui effectivement donnait le ton de ce rendez-vous. Et d'ailleurs, Trump dit d'entrée de jeu à son homologue Xi Jinping lors de l'un de ses premiers tête-à-tête, il lui dit « Je ne voulais que le top et ils sont ici aujourd'hui pour vous présenter leur respect à vous et à la Chine. » Trump, le flatteur, qui compte bien en fait, la priorité des priorités de Trump dans ce voyage, c'est de convaincre son homologue chinois d'ouvrir davantage le marché chinois en fait aux entreprises américaines. Les Américains ont besoin en fait du marché chinois pour rééquilibrer la balance commerciale des échanges bilatéraux qui est largement déficitaire en défaveur des États-Unis. Je rappelle quand même que le solde annuel des échanges américano-chinois est monstrueux. On parle de plus de 700 milliards de dollars d'échanges annuels. Imaginez, 700 milliards d'échanges annuels. Comme vous le savez, Richard, la Chine est l'usine du monde et en réalité, la Chine est largement bénéficiaire de ces échanges. Et Donald Trump avait trois priorités commerciales. La première, c'est l'agriculture et en particulier le fameux le soja qu'importe la Chine dans des quantités absolument astronomiques. Soja qui est produit aux États-Unis en particulier par les agriculteurs et en particulier par ces agriculteurs de l'Est, des grandes places de l'Est américaine qui sont quasiment tous des électeurs de Trump. Vous voyez, donc là déjà, il y a le business, mais il y a aussi la politique. Et je vous rappelle que ce sommet, ce rendez-vous au sommet est le deuxième tête-à-tête entre l'Américain et le Chinois. Le premier a eu lieu le 30 octobre dernier à Busan, en Corée du Sud. Il a duré 1h, 1h30, 1h45. Et lors de ce sommet, les deux hommes ont aplani un certain nombre de différends commerciaux qui menaçaient de gripper les deux moteurs économiques qui sont finalement très interdépendants, le moteur américain et le moteur chinois. Je vous rappelle cet épisode et on va revenir au soja. Lorsque Trump, rappelez-vous, lance un certain nombre d'augmentations, de hausses unilatérales des droits de douane pour les produits entrant aux États-Unis, il cible l'Europe, il cible l'Amérique du Sud et il cible aussi la Chine. Le principe étant que ces droits de douane vont permettre à l'Amérique financer à bon compte la réindustrialisation de leurs usines. Autrement dit, Trump, en augmentant les droits de douane, compte sur le fait que les importations soient désormais si chères voilà, aux gens qui l'exportent, qu'ils préfèrent finalement réinstaller des usines sur le sol américain. C'est ce que un certain nombre de médias mainstream français n'ont jamais compris. C'est comment financer la politique de réindustrialisation par les autres. Et au passage, c'est évidemment la promesse de Trump lors de sa campagne, c'est recréer des emplois dans l'industrie américaine, pour l'industrie aux États-Unis. Recréer le cercle vertueux de l'autonomie industrielle américaine qui a beaucoup souffert depuis le Covid. Et aussitôt en rétorsion, le Chinois décide de bloquer toutes les importations de soja américain. Donc en comptant évidemment sur les agriculteurs républicains pour aller voir Trump en disant « qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» parce que c'est ça la réalité. Également en bloquant tous les produits contenant un peu, un pouillem ou beaucoup de terres rares chinoises. Terres rares chinoises qui sont indispensables justement à l'industrie high-tech américaine et à la réindustrialisation de la haute technologie sur le sol américain. Mais également, il me manque un troisième point. Bref, toujours est-il que le 30 octobre, les deux hommes décident de se voir et d'aplanir ces difficultés. Et d'ailleurs, quelques heures avant d'accueillir Donald Trump sur le sol chinois cette fois, les 14 et 15 mai dernier, Xi Jinping leur dit, il lâche, les faits ont prouvé que personne ne gagne une guerre commerciale. Autrement dit, il y aura deux perdants et donc il faut que l'on s'entende. Voilà en fait l'état d'esprit dans lequel Trump et Xi Jinping se sont retrouvés pour la seconde fois à Pékin. Et voilà quelles étaient les priorités de Trump. Et patatras, évidemment, les espoirs chiffrés en dollars sonnants et trébuchants évoqués par la presse américaine avant ce voyage ne sont pas au rendez-vous. On parle notamment de une commande de 200 Boeing supplémentaires en Chine. C'est un chiffre intéressant puisqu'il y avait une forme de boycott chinois sur les commandes d'avions américains. Donc on voit là qu'il y a une ouverture, mais en fait, le bilan de cette offensive commerciale américaine en Chine est relativement en demi-teinte.
Parce qu'on évoquait 500 Boeing avant le voyage.
Voilà, je vois que vous avez suivi, c'est exactement ça. Et par ailleurs, il y a quand même une forme d'équilibre et finalement, je crois qu'on voit que la Chine a permis à l'Amérique de sauver la face, c'est-à-dire de rentrer, de permettre à l'Américain de rentrer aux États-Unis en disant « nous avons obtenu ce que nous voulions, une ouverture supplémentaire du marché chinois ». Et notamment, les deux grands ont inauguré la création d'une entité bilatérale qui sera chargée en fait de lisser les différends en matière de commerce et d'investissement étrangers. Il y a en particulier, plane toujours la menace de Pékin sur les entreprises étrangères qui viennent s'installer en Chine et en particulier américaines. Il y a une loi qui est en suspens qui consisterait à interdire en fait à toutes les entreprises basées en Chine, y compris les entreprises étrangères, d'appliquer les sanctions internationales. Et ça, évidemment, c'est un casus belli pour les boîtes américaines qui, elles, sont bien obligées d'appliquer les lois américaines. Et donc, ce serait une forme cette mesure conduirait, en fait, au départ, en fait, des investisseurs étrangers. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans ce rapport de force. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que le Chinois, qui a lui aussi mis les petits plats dans les grands pour séduire l'Américain, par exemple, il a été accueilli sur la place Tiananmen au Palais des Peuples avec vraiment des fastes historiques inédits, 21 coups de canon, des parades d'enfants alignés au carré comme dans les pays communistes, vous savez, Richard.
D'ailleurs, il paraît que la Chine est communiste.
Voilà. Et sans aucune faute, Trump a dit c'est fantastique. Il a été séduit en quelque sorte, comme il l'a été lorsqu'Emmanuel Macron l'avait amené aux Invalides, puis au défilé des 14 juillet, qu'il avait demandé à l'Amérique de refaire non pas un 14, mais un 4 juillet aux États-Unis. Eh bien, c'était à peu près la même chose. Sauf que dans la foulée, et on arrive à la deuxième. La deuxième étape de ce voyage, qui lui, pour le coup, était très géopolitique. Dans la foulée, Xi Jinping le rattrape par la manche, fait redescendre Trump, qui était parti sur un petit nuage chinois, le fait redescendre sur la terre chinoise brutalement en lui déclarant ceci. La question de Taïwan est la plus importante de la relation sino-américaine. Si elle est bien traitée, les relations entre la Chine et les États-Unis pourront rester globalement stables. Si elle est maltraitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que par-dessus tout, l'essentiel du point de vue de la Chine, ce sont les relations. C'est le dossier taïwanais dans lequel l'Amérique est évidemment le moteur principal, puisque je rappelle à vos auditeurs que lorsque l'Amérique décide sous sous l'égide d'Henry Kissinger, de reconnaître officiellement l'existence de la Chine communiste en 1979, la contrepartie de cette reconnaissance, c'est la fin des relations, l'absence de relations officielles avec Taïwan. Donc pas de relations officielles avec Taïwan. Et petit à petit, en fait, dans la diplomatie américaine, un certain nombre de règles vont être... cette règle va être consolidée. Et finalement, l'Amérique décide de faire un cadeau à la Chine en ne reconnaissant pas officiellement Taïwan, ce qui fait que, par exemple, les représentants de Taïwan ne sont jamais reçus sur le sol américain. Ils sont, lorsqu'il y a des rencontres, elles se font par exemple au Mexique ou en Amérique centrale, mais jamais sur le sol américain. Et la deuxième chose, c'est que, et ça c'est Reagan qui l'a mis en œuvre, c'est que en contrepartie, pour le coup, à Taïwan, l'Amérique s'engage à soutenir unilatéralement tous les efforts de défense de Taïwan en lui fournissant en particulier la majorité de ses armements, business first, on y revient. Et d'ailleurs, en décembre 2025, le Congrès américain avait approuvé une livraison d'armement à destination de Taïwan d'une valeur de 11,5 milliards de dollars, un chiffre inédit par son ampleur qui n'avait jamais été aussi important depuis 2001, et une livraison qui avait été réalisée sous l'ère, je crois, de George Bush Jr. Et en fait, Donald Trump savait évidemment que c'était un irritant pour Pékin et avait décidé, en fait, après cette approbation, de laisser courir, en fait, la concrétisation de la mise en œuvre pour s'attirer les bonnes grâces de Pékin, sachant qu'il voulait vraiment parler avec l'autre homme fort de la planète. Et c'est donc toujours cette deuxième partie du voyage américain. On voyait bien que le Chinois avait, lui, pour objectif de convaincre l'Américain de ne pas, non seulement de laisser de côté cette livraison spectaculaire, mais également de ne pas donner suite à la suite de ce paquet historique, 14 milliards de dollars supplémentaires de livraison dans les tuyaux, puisque le 8 mai dernier, c'est-à-dire quelques jours avant la rencontre au sommet des deux grands, le Parlement taïwanais avait voté le déblocage d'une somme de mémoire de 25 milliards de dollars pour pouvoir faire face à cette commande gigantesque d'armement. Et c'était le pari de Xi Jinping, et c'est là où on voit deuxième affaiblissement, premier affaiblissement commercial, deuxième affaiblissement politique de Donald Trump, qui est encore difficile à interpréter parce que, vous savez, Donald Trump est maître dans l'art de bousculer les règles pour essayer de mieux empocher la mise ou de maximiser la mise qu'il souhaite empocher.
Ou de prétendre avoir empoché quoi que ce soit, d'ailleurs.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il est trop tôt pour savoir s'il peut prétendre avoir empoché quelque chose ou si, au contraire, il est dans une position de faiblesse. En tout cas, il a bousculé les règles. Et pour la première fois, en fait, Donald Trump a répondu de retour à Washington à son homologue chinois. Nous allons réfléchir, en fait, à cette proposition chinoise de sursoir à l'armement de Taïwan, ce qui est enfoncer un clou dans la sacro-sainte règle de la diplomatie américaine vis-à-vis de Taïwan. Je le rappelais, on ne demande pas son avis à personne, on arme Taïwan. Et deuxièmement, il a été plus loin, puisqu'il a dit il va falloir que j'en parle aussi au président taïwanais, officiellement. Ce qui est un deuxième coin enfoncé dans la tradition diplomatique américaine qui ne veut qu'on n'ait pas de dialogue officiel avec Taïwan. Donc, est-ce que Xi Jinping a réussi son coup ? C'est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que la règle de Donald Trump consistant à bouleverser les règles a fonctionné ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais on sent quand même que Trump, là, pour le coup, est plutôt dans une position de déséquilibre, à nouveau, vis-à-vis de Xi Jinping.
Il y a effectivement toujours un déficit commercial. Vous l'avez souligné rapidement dans votre propos, mais j'aimerais qu'on y revienne. Il y a cette idée d'une espèce d'OMC réservée juste à Donald Trump et Xi Jinping, autrement dit les États-Unis et la Chine. De même que Donald Trump a voulu avoir son propre Conseil de la paix pour remplacer l'ONU, il est en train de réinventer une espèce de Conseil mondial du commerce, mais réservé à la Chine et aux États-Unis, comme une espèce d'alternative à l'OMC. Enfin, alternative est un terme important. Il pose une alternative, soit l'OMC, soit son conseil.
Non, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faut interpréter les choses. C'est véritablement un organisme qui va permettre d'aplanir en amont, ou en tout cas d'empêcher un certain nombre de frictions commerciales et financières entre les deux grands, de dégénérer en guerre concurrentielle ouverte. C'est vraiment un organisme bilatéral. On n'est pas du tout là dans le multilatéralisme revu et corrigé par les deux grands. Là, on est vraiment dans une volonté en fait bien comprise des deux grands de déminer en fait des sujets qui seraient perdant-perdant pour les deux. Et c'est intéressant. Après, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que cet organisme va avoir la capacité, le pouvoir de déminer, ou est-ce que c'est un organisme marketing qui permet à Trump de rentrer à la maison en disant « Voyez, j'ai obligé les Chinois à s'asseoir à une table pour négocier, négocier entre les deux grands ». Ça, pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Donc, est-ce qu'on est dans un... En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Xi Jinping est un malin, c'est-à-dire qu'il est en position de force, et c'est le troisième volet, évidemment, de cette visite. Pourquoi est-il vraiment en position de force? Parce que l'Amérique est enlisée dans sa guerre au Moyen-Orient, elle ne sait plus comment sortir du piège d'Hormuz dont on parlait ici plusieurs fois lors des émissions passées. Xi Jinping a mesuré combien l'Amérique avait dépensé de ses armes de défense stratégique ultra chères et ultra technologiques contre l'Iran et connaît la diminution des stocks américains, ce qui est évidemment une bonne chose pour lui. Xi Jinping a mesuré combien cette guerre au Moyen-Orient a fait perdre la crédibilité à tous les alliés que l'Amérique a en Asie, les grands, l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, tous ces protecteurs, tous ces pays en fait qui s'étaient mis sous la coupe du bouclier américain sont extrêmement perdants puisque l'Amérique a retiré un certain nombre de ses moyens de défense stratégique pour les réallouer au conflit moyen-oriental. Tout ça, Xi Jinping le sait. Et enfin, il sait une dernière chose, il sait que s'il y a bien un grand qui est capable d'influencer l'Iran, dans le sens que souhaite Trump, c'est bien la Chine. Et donc, en fait, c'est là où c'est très intéressant, c'est que le Chinois a octroyé, a donné sur un plateau à Trump un certain nombre de choses qui lui permettent effectivement de sauver la face, mais dont on ne mesure pas encore la réalité et on peut s'interroger sur en fait l'effet positif de ces bénéfices pour Trump et pour Xi Jinping d'ailleurs. Et c'est cette troisième. Alors, si vous voulez bien, je vais essayer de tirer le fil de cette troisième paquet en fait de discussions. Alors, dans ce troisième paquet de discussions, il y a évidemment l'Iran, il y a évidemment la Russie, il y avait aussi la Corée du Nord. Et là, c'est là où vraiment les choses se complexifient pour Trump, parce que avec l'Iran, la Chine joue un double, un triple, voire un quadruple jeu. La Chine a reproché officiellement, Xi Jinping a reproché officiellement lors de ce sommet à l'Amérique d'avoir conduit cette guerre au Moyen-Orient. C'est une erreur, il fallait faire autrement. La Chine est alignée officiellement, je pense officieusement, avec le but, l'objectif stratégique de Donald Trump, qui n'est pas le changement de régime à Téhéran, mais qui est le fait que l'Iran abandonne toute ambition nucléaire. La Chine est comme la Russie, comme les États-Unis et d'ailleurs comme la France, elle milite pour la non-prolifération nucléaire. La Chine, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la France, sont à la base du traité de non-prolifération nucléaire qui permet en fait de conserver permet de conserver l'atome militaire au club, au petit club qui en est dépositaire, et de gérer et de contrôler toute prolifération civile. Ça, c'est assez clair. Maintenant, la Chine, si elle ne voulait pas de cette guerre américaine au Moyen-Orient, elle est la première à en bénéficier. Je viens de le rappeler pour toutes les conséquences. La Chine ne peut que se réjouir de l'enlisement de Donald Trump, de l'affaiblissement de l'Amérique avec cette guerre au Moyen-Orient. La Chine est également impactée également au premier chef par ce conflit, puisque je rappelle que 35% du pétrole importé par la Chine provient du Golfe Persique. Donc la Chine est à la fois l'importateur de 90% du pétrole iranien, mais elle est surtout importatrice, elle s'approvisionne surtout à hauteur d'un tiers de son pétrole dans le Golfe Persique, donc elle est forcément impactée. Et d'ailleurs, le Chinois est malin, il a laissé entendre à Donald Trump que la Chine pourrait augmenter davantage de pétrole américain en contrepartie en fait d'efforts américains dans le sens souhaité par la Chine. La Chine veut bien agir sur l'Iran parce que finalement, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, toutes ces grandes puissances, quelque part sans le dire, sont bien contentes de l'affaiblissement de la puissance iranienne, de l'empire perse, qui est en fait un verrou embêtant pour les trois finalement. Pour l'Amérique parce qu'elle vient rééquilibrer en fait la puissance des monarchies du Golfe Persique. Pour la Russie parce que la Russie a toujours eu comme velléité intemporelle l'accès aux mers chaudes et l'Iran puissant et fort est un verrou comme l'était d'ailleurs l'Afghanistan à une certaine époque, et pour la Chine parce que la Chine effectivement n'a pas non plus intérêt à avoir un Iran trop fort. Elle préfère en fait avoir des puissances moyennes pour pouvoir mieux agir sur avec ses intérêts. Donc la Chine effectivement n'est pas mécontente en fait de l'affaiblissement de l'Iran. Maintenant la Chine joue un double ou un triple jeu puisque on sait aujourd'hui dans le détail comment la Chine a aidé en fait l'Iran à résister, en particulier en lui fournissant des services satellitaires grâce à sa constellation Beidou qui est concurrente du GPS américain et de la constellation européenne dont le nom m'échappe.
Galiléo,
voilà. La Chine a également fourni à l'Iran des pièces détachées, des drones et un certain nombre de technologies qui lui permettent toujours de rendre des coups efficacement aux États-Unis, en particulier sur les bases américaines dans le Golfe Persique. Et d'ailleurs, l'Iran, la preuve est que l'Iran sait très bien qu'elle est instrumentalisée par la Chine pour, si ce n'est affaiblir, du moins tenir l'Amérique dans ce conflit. C'est que 24 heures après la fin du sommet entre les deux grands, l'Iran a décidé d'augmenter le prix des enchères de sa négociation globale avec les États-Unis en annonçant la création d'un organisme de gestion en fait du flux maritime transitant par les détroits d'Ormuz, organisme auprès duquel seraient censés s'accréditer tous les navires voulant emprunter ce passage, et ensuite le reste est flou, on ne sait pas exactement quelle serait la suite, si cela déclencherait une forme de péage ou pas, tout ça est encore flou, mais en tout cas, on voit que l'Iran vient d'augmenter le prix de ses enchères. Hier, Trump, furieux, c'est bien la preuve, en tout cas, que la Chine n'a pas eu les mots nécessaires pour calmer l'Iran, la preuve est faite. L'Américain Trump, furieux, rentre à Washington et promet que le feu va à nouveau tomber sur l'Iran. Et cette nuit, pour nous, c'est-à-dire hier soir pour eux, dernier retournement de ce de ce fort en gueule, ah bien finalement nous allons suspendre pour un moment à la demande des États du Golfe Persique de nouvelles frappes sur l'Iran. On en est là aujourd'hui.
Et l'Iran qui du coup explique, puisqu'il n'a tant faire qu'à contrôler l'étroit d'Ormuz, autant aussi contrôler les câbles sous-marins.
Voilà. Exactement.
Donc on sent que l'Iran effectivement n'a pas véritablement considéré qu'elle avait perdu la bataille pour le moment.
Et dernier événement, épisode de ce tête-à-tête, ce soir, nous sommes donc le 19 mai, ce soir, atterrit à Pékin le représentant d'une autre grande puissance, Vladimir Poutine, qui arrive avec 8 de ses ministres à Pékin, et on peut... Connaissant la Chine et l'importance des symboles pour la Chine, c'est une manière pour le Chinois qui a organisé cette visite quelques jours après celle de Trump de dire « Je suis indifférent à toutes les pressions américaines, je reçois qui je veux et en particulier mon ami Donald Trump, mon ami Vladimir Poutine, grâce auquel la Chine est relativement la fermeture du golfe Persique est relativement indolore en matière énergétique puisque la Chine peut s'approvisionner davantage en énergie auprès des Russes. On verra dans quelques jours quels seront les bénéfices de ce nouveau tête-à-tête. Je crois que c'est le 21e tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Xi Jinping et on en reparlera la semaine prochaine.
Merci Myriadec Raffray.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite.
Et nous reprenons la matinale, je vais y arriver dès que mon micro sera allumé, avec Victor Aubert pour sa chronique. Victor Aubert, bonjour, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Academia Christiana. Alors ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un événement majeur d'ailleurs dont on n'a pas encore parlé et qui vient tout juste d'être confirmé par le Vatican, la visite du pape Léon XIV.
Oui, tout à fait, chers auditeurs, cher Alexandre, c'est une bonne nouvelle qui a été officialisée ce week-end par le Saint-Siège. Donc le pape Léon XIV va bien effectuer un voyage apostolique dans notre pays, la France, à la rentrée prochaine. Et c'est un événement qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce qu'il va dépasser le cadre simplement pastoral.
Ouais, alors commençons par les faits. Quel est le programme précis de cette visite très attendue ?
Eh bien, donc, les faits vont se dérouler à partir de la rentrée scolaire au mois de septembre. Donc, le souverain pontife va venir en France du vendredi 25 septembre au lundi 28. C'est la première visite d'État d'un pape en France depuis 2008. Donc, c'était à l'époque Benoît XVI. Et bien que le programme soit déjà un petit peu défini, il est toujours en cours de finalisation par la Conférence des évêques de France. Donc, le pape va se rendre d'abord à Paris avec un passage très attendu à l'UNESCO et à la cathédrale Notre-Dame un an et demi après sa réouverture. Il y a une rumeur comme quoi il ferait une halte symbolique en Moselle à Sichazel pour se recueillir sur la tombe de Robert Schuman, donc l'un des fondateurs de l'Europe. Et enfin, il va achever son périple par un pèlerinage marial à Lourdes. Il souhaite se faire pèlerin avec les pèlerins au plus près donc des malades.
C'est dommage, pardon, la Moselle, parce que pas très loin, il y a quand même Dorémy la Pucelle, ça aurait pu être joli. Mais enfin, bon, bref. Une visite d'État à quelques mois seulement de la campagne pour l'élection présidentielle, avec un passage donc sur la tombe d'un père de l'Europe. Est-ce que c'est pas une visite éminemment politique ?
Alors c'est en effet un petit peu troublant tout ça, parce que ce serait quand même naïf de se dire que une année de présidentielle avec des symboles de telle sorte, il n'y ait absolument aucun rapport avec la politique. Et effectivement, cette visite répond notamment, peut-être pas seulement, mais à une invitation du président Emmanuel Macron qui avait rendu visite au pape au Vatican au mois d'avril dernier. Donc évidemment, d'un point de vue de l'Élysée, on peut voir ici un calcul assez visible. Hein, 2027, le président cherche peut-être à s'afficher aux côtés d'une autorité morale de poids sur la scène internationale. tout en envoyant un signal de reconnaissance à l'égard de l'électorat catholique qui a été heurté sans doute par un certain nombre de réformes, notamment l'inscription de l'avortement dans la Constitution, les débats sur l'euthanasie. Mais je crois que le pape Léon XIV n'est sans doute pas lui non plus naïf. Et s'il a accepté cette visite d'État, c'est peut-être aussi parce qu'il a sa propre stratégie, c'est-à-dire jouer d'une certaine forme de subtilité diplomatique avec, voilà, c'est lui qui sera le maître des gestes, des discours, des cérémonies à travers cette visite. Et s'il vient justement se rendre sur la tombe de Robert Schuman, ce n'est peut-être pas simplement pour valider l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être pour rappeler aussi aux dirigeants politiques qu'à l'origine, ce projet européen était lié aux racines chrétiennes. Donc, il se pourrait finalement que le pape profite de cette concomitance de calendrier pour inciter les candidats à l'élection présidentielle à se positionner aussi vis-à-vis du catholicisme, ou en tout cas vis-à-vis, on pourrait dire, de la morale naturelle. En tout cas, soyons prudents, parce que pour l'instant, cette visite n'a pas encore eu lieu, et donc il serait peut-être un peu trop hâtif d'en tirer des conclusions dès maintenant.
Alors, au-delà du jeu diplomatique avec le pouvoir français, quelle est selon vous la visée stratégique du pape Léon XIV dans ce voyage ?
Alors c'est vrai qu'effectivement, si on se souvient du pape François qui parlait donc surtout des périphéries, qui se rendait finalement soit dans les endroits où on accueillait où arrivaient les migrants, on voit effectivement que Léon XIV a fait le choix de restaurer d'une part un dialogue institutionnel de très haut niveau donc avec les États. Justement, s'il se rend à l'UNESCO, on voit aussi aujourd'hui voilà qu'il essaye de prendre en compte la géopolitique de notre époque et en essayant finalement d'être un acteur de la paix à travers les conflits justement contemporains. Donc tout ça va justement nous mener à un discours assez crucial. Et puis un enjeu aussi, c'est que le pape va bientôt sortir une encyclique dans laquelle il va parler notamment de l'intelligence artificielle, mais en tout cas de tous les aspects, on pourrait dire, négatifs de cette révolution numérique, en essayant justement de donner des critères de discernement à travers l'usage de ces technologies. Donc je pense qu'il sera sans doute aussi question de cela à travers les interventions du pape en France.
Et alors sur le plan purement ecclésial, quels sont les enjeux spirituels pour les catholiques de France ?
Ils sont vraiment importants parce que d'une part, on sait qu'en France, il y a un renouveau du nombre de baptêmes, hein, 13 000 baptêmes d'adultes à Pâques en 2026, c'est-à-dire environ 3 000 de plus que l'année précédente. On a un clergé français qui est parfois un petit peu épuisé, un peu à bout de souffle. Et puis, il y a aussi en France, on est le pays aussi où se joue la querelle liturgique autour de l'ancien et du nouveau rite. Il va y avoir les sacres à Écône avec la Fraie Saint-Pédis. Donc, finalement, peut-être que le pape va être là aussi pour essayer de ramener un petit peu d'unité, ramener un petit peu de paix liturgique. Il y a beaucoup d'attentes, évidemment, ce sont que des rumeurs, hein, mais sur un document dans lequel le pape affirmerait, peut-être inciterait les évêques à une intégration très généreuse de la liturgie dans sa forme extraordinaire, de la messe traditionnelle, au sein de l'Église de France.
Et pour conclure, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs face à cet événement ?
Eh bien, je leur dirais, voilà, surtout ne boudons pas notre joie d'accueillir le souverain pontife en France, mobilisons-nous, ne laissons pas cet événement au seul commentateur politique, mais préparons-nous spirituellement, organisons justement dans nos paroisses, dans nos communautés, des comités d'accueil du pape à Paris, à Lourdes. Et puis, saisissons cette occasion aussi pour faire un peu un témoignage de vitalité du catholicisme français. Prions pour que ce voyage soit peut-être aussi prophétique que celui du pape Jean-Paul II en 1980 qui demandait à la France qu'elle avait fait des promesses de son baptême, ou encore le discours de Benoît XVI au Collège des Bernardins en 2008. Ce sera justement par notre présence, par notre prière, que nous montrerons au Saint-Père que la France est bien la fille aînée de l'Église.
Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Victor Robert, et on vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles. Oui, bonjour, j'attendais que vous me disiez bonjour.
Je prenais mon temps.
Voilà. Bonjour Franck et bonjour Gilles. Chers auditeurs.
Voilà, alors vous avez lu l'entretien donné par Éric Zemmour au Figaro, car reparaît aujourd'hui son livre Le suicide français, qui sort en même temps dans une version anglaise aux États-Unis dans quelques semaines.
Oui, un livre à succès en effet. Oui. Alors, il précise aussi qu'un documentaire tiré de son livre sera diffusé sur Canal+ en juin. Ah. Alors, Éric Zemmour répond donc aux questions de Paul Lobaché qui dit clairement « J'analyse ce qui est arrivé à notre pays depuis la mort du général de Gaulle, le triptyque redoutable, déconstruction, dérision, destruction que j'ai écrit a sapé les fondements de notre nation. Alors je me suis engagé depuis lors à déconstruire les déconstructeurs et je tiens parole, beaucoup à l'époque me disaient déclinistes. Je répondrai que le déclin, je l'ai dénoncé, tandis que mes contempteurs l'ont organisée. Alors j'aurais préféré avoir tort, mais malheureusement depuis lors, tout s'est déroulé comme prévu, tout, et pas seulement l'invasion migratoire et l'islamisation de notre pays, mais aussi l'indifférenciation sexuelle, l'effondrement de l'école, la prise de pouvoir par les juges, la haine de notre histoire, les ravages causés par le wokisme à l'université ou encore les conséquences de la désindustrialisation. Et puis quand le journaliste l'interroge sur ce qui oppose le RN à Reconquête, alors Éric Zemmour répond inlassablement ceci. Je crois que nous avons aujourd'hui deux enjeux majeurs. Le premier, c'est celui du grand remplacement, qui nécessite une défense identitaire de notre civilisation, que ne prend pas en compte le RN, puisque Mme Le Pen et Jordan Bardella répètent que la guerre de civilisation n'existe pas, que l'islam est compatible avec la République et que l'islam n'est pas l'islamisme. Ils affirment enfin que la remigration, les délinquants, des criminels, des chômeurs de longue durée, est anti-républicaine. À Reconquête, nous pensons tout le contraire. Alors, même divergence sur l'économie. Éric Zemmour soutient la politique que porte avec, je cite, un brio exceptionnel, Sarah Knafo, réduction des dépenses massives, réduction non moins massive des impôts et des charges sociales. C'est la seule solution pour régler la question lancinante du pouvoir d'achat, qui est la conséquence d'un véritable appauvrissement des Français depuis 20 ans. Alors, il ne dit pas non à une primaire à droite. J'approuve, explique-t-il, car je pense que cela pourrait donner une dynamique à la droite. C'est ce qui s'était passé pour François Fillon et même pour Valérie Pécresse. Ce n'est pas la primaire qui les a fait perdre. En réalité, son seul adversaire reste évidemment Jean-Luc Mélenchon et sa Nouvelle France, qui n'est en vérité que le paravent d'une France au mieux libanisée, au pire islamisée et ruinée par une politique économique quasi-communiste, conclut-il. Voilà, c'est à lire dans Le Figaro.
Et puis le monde du cinéma serait en train de se déchirer sur la croisette à cause de l'affaire Canal+.
Oui, alors toute la presse en parle. Hein. Il ne parle que de cette pétition des 600 professionnels contre Vincent Bolloré, premier actionnaire des salles UGC de Canal+, principal financeur du 7e art, comme si Canal+ avait l'habitude de s'immiscer dans les scénarios des réalisateurs. Alors on sait bien que c'est faux, et à la une de l'opinion, Nicolas Bétou écrit « Mais outre que les centaines de films produits par Canal+ démontrent au contraire une réelle diversité et contredisent tout procès en activisme idéologique, la liberté est aussi pour le producteur celle de fermer le robinet de cash à celui qui rejette sa présence au générique. Alors, longtemps, le cinéma français a résisté à la déferlante américaine, écrit encore l'éditorialiste de l'Opinion, en s'appuyant sur des sources de financement multiples, publics et privés. Et grâce à ce montage complexe, il a pu faire vivre des films dont le seul critère d'existence n'était pas le succès auprès du grand public, mais la contribution au meilleur du 7e art. Et comme le rappelle Gaëtan de Capelle à la une du Figaro, la grande famille du cinéma peut avoir l'opinion qu'elle souhaite de Vincent Bolloré, elle reconnaît unanimement le rôle essentiel de Canal+ dans le financement des films français. De son aveu même, à aucun moment la chaîne propriété de l'homme d'affaires depuis des années n'a manqué à ses obligations. Jamais elle n'a cherché à imposer quelque idéologie que ce soit dans aucun scénario. Et bien au contraire, tout le milieu loue son soutien sans faille à la diversité et à des projets exigeants. Et le patron du CNC lui-même déplore cette querelle infondée. En un mot, les pétitionnaires du jour n'ayant rien à dénoncer, ont instruit un procès d'intention. Voilà, à lire dans le Figaro.
Alors, Marc Bloch fera son entrée au Panthéon le 23 juin. Une journaliste s'interroge et propose qu'une romancière y fasse aussi son entrée.
Oui, alors l'Express, en vente jusqu'à mercredi soir, hein, publie en effet un article du critique littéraire Louis-Henri de La Rochefoucauld, lequel pose en effet la question « George Sand mérite-t-elle sa place au Panthéon ?» Alors cela, à l'occasion de la parution de la biographie de Marie-Hélène Bellac chez Perrin, BNF, du roman de Stéphane Guigan, « Les amours de Georges », mais également parce que cette année, cela fait 150 ans que la Dame de Nohant, auteur de La Petite Fadette ou de La Mare au Diable, a disparu. Alors la question est de savoir pourquoi, hein, pour quelle raison Alexandre, au fond, mériterait-elle d'entrer au Panthéon ? Pour son talent d'écrivain, sa vie audacieuse ou bien tout simplement pour son féminisme ? Alors Louis-Henri de La Rochefoucauld révèle que le département de l'Indre a adressé au président de la République, accompagné de la signature de 6 présidents de département du centre Val-de-Loire, un courrier officiel demandant la panthéonisation de l'enfant du pays. En effet, si vous vous rendez sur le site indre.fr, vous pourrez lire que Georges Sand est l'une des plus grandes figures de la littérature française et européenne, et par la richesse et la modernité de son œuvre, elle a su donner au roman champêtre une dignité nouvelle, faisant entrer la vie rurale, les paysages du Berry, les traditions, les lutte du monde paysan dans le récit national. Lire Georges Sand aujourd'hui, c'est redécouvrir une langue vivante, accessible, profondément humaine. Et je passe sur le couplet républicaine attaché aux valeurs de la liberté, d'égalité, de fraternité et son attitude progressiste. En fait, le critique de l'Express, après avoir retracé les grands moments de sa vie et de sa vie amoureuse hein, auprès de Musset et de Chopin, plus ou moins réussi, termine son propos par ces mots. Le Panthéon serait une juste reconnaissance posthume encourageant le président de la République à lire l'éloge funèbre de Victor Hugo qui en 1876 clamait « Je pleure une morte et je salue une immortelle. Je l'ai aimé, je l'ai admiré, je l'ai vénéré. Aujourd'hui, dans l'auguste sérénité de la mort, je la contemple. » Voilà, fin de citation à lire dans l'Express.
Magnifique.
Et je précise évidemment qu'aujourd'hui, il y a une campagne pour que Samuel Paty entre au Panthéon.
Oh là là. Bon, vaste débat. Allez, zone libre.
Zone libre.
Je, soit dit en passant, je serais pas tout à fait contre pour George Sand. Faudrait peut-être la mettre en même temps que Musset, par exemple, dans le même caveau. Quelque chose comme ça pourrait être assez, assez amusant.
Ouais, moi, je suis pas pour les mettre ensemble toujours parce que parfois il y a eu des différences.
Sur les deux côtés du caveau, peut-être en face. Ah, finalement, un petit peu comme Voltaire et Rousseau d'une certaine façon.
Moi, j'avais été, vous savez, j'avais été secrétaire général d'une association qui militait pour. Que Charles Baudelaire entre au Panthéon, parce que le pauvre est enterré à Montparnasse dans le même caveau que son beau-père qu'il détestait, le baron au pic, et il n'a rien à faire à Montparnasse.
Eh bien écoutez, sauvons Maupassant alors. Non, Baudelaire, pardon.
Baudelaire, oui.
Magda, vous avez une info, une exclue à nous donner.
Oui, alors une exclue qui nous a donné, enfin qui donne un peu la chair de poule, puisque je vais vous parler d'une information qui s'est passée dans la nuit du 16 au 17 mai près d'Agen. Les pompiers ont été mobilisés pour une opération de sauvetage qui a été particulièrement délicate. Il y a un individu qui a été repéré suspendu dans le vide, incapable de se dégager seul à plusieurs mètres de hauteur. Les secours sont intervenus assez rapidement en pleine nuit avec l'objectif donc d'éviter une chute qui aurait pu être fatale. Après donc une longue intervention et une opération très minutieuse, la victime a finalement pu être récupérée saine et sauve. Et voilà, c'était un pigeon. Voilà, oui, un pigeon qui a été coincé, pendu par une patte et qui aura donc nécessité une véritable opération de secours avec plusieurs pompiers, des pompiers du Lot et Garonne. Ah. Et maintenant, il est retourné jouer avec ses amis dans les airs et il est sain et sauf.
Quel soulagement.
Alors, vous avez des nouvelles de lui récemment?
Oui, il est en pleine forme. Il a pu retrouver sa petite famille, sa femme et ses enfants.
Il a repris son poste de contribuable français.
Oui, très bien, ça pas mal.
Non, mais il y en a beaucoup qui sont des pigeons et qu'on aimerait laisser tomber au sol. Mais ça,
c'est manque de charité, là, d'un coup.
Pigeon, animal à la grise robe, dans l'enfer des villes, tu te dérobes, jamais tu te dérobes. Tu connais pas ce poème?
Oui,
c'est dans C'est arrivé près de chez nous avec Poulvord.
Je pensais que c'était nous.
C'est bien toi le plus habile. Non, je n'ai pas encore ce talent.
J'espérais une telle inspiration de votre part, effectivement.
Peut-être un jour, pardon.
Je
vous parlerai bientôt de la chauve-souris.
Chouette alors.
Un magnifique qui vient de sortir.
Non, ça c'est pas mal. Mettez-vous des applaudissements, Franck, je vous l'ordonne.
Non, vous avez raison.
Voilà, c'est essayer de faire ça. Voilà, très bien.
Voilà, on aime bien. Bon, alors, c'est tout pour
sur la chauve-souris.
Oui, la chauve-souris, c'est un livre qui vient de sortir, qui est magnifique. C'est un animal extraordinaire. Pour moi, c'est le même type d'animal que l'on pourrait comparer aux hérissons. Ils n'ont pas du tout la même fonction, mais qui sont protégés.
Intéressant. Non, mais vous êtes un oiseau de nuit, Gilles. Ce n'est une nouvelle pour personne.
C'est un copain de Batman, peut-être.
Mais,
on sait pas.
Mais merci. Oui, voilà.
Des vampires et des grottes.
Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cet exclu, Magda. On prendra les nouvelles du pigeon, bien sûr, dans les semaines à venir. On en reparlera peut-être un grand entretien la semaine prochaine.
Oui.
Voilà, oui, exactement. Vous ferez une note, peut-être. Merci d'avoir été avec nous ce matin, chers auditeurs. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X.
Il est temps, oui.
Merci d'avoir suivi jusqu'à nos bêtises. Cela étant, si jamais vous voulez que ces matinales se poursuivent dans la joie, dans l'espérance, dans la bonne humeur et aussi dans l'information, bien sûr, eh bien, nous allons avoir besoin de vos dons.
Absolument. Et pour faire un don en ligne, c'est très facile et rapide. soutenir.rc.fr. Je me dépêche pour annoncer à nouveau à la demande de Pierre-Alexandre Bouclet qui nous invite à la soirée des Bobardors ce mercredi 20 mai, donc demain. Venez rire de 15 ans de mensonges de service public de 19h à 23h à la salle Athènes Service dans le 9e. Pour les réservations, vous allez sur le site bobard-dor.fr, bobard-dor.fr.
Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous y rendre. Et tout de suite, on écoute Valérie Dobini qui nous parle de l'addiction aux écrans. Peut-on sauver la jeunesse?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous allons parler de l'addiction aux écrans. Peut-on sauver la jeunesse? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et on va se la poser avec Valérie Daubigny. Valérie Daubigny, bonjour.
Oui, vous bonjour.
Vous êtes critique littéraire jeunesse, membre du comité de lecture 1, 2, 3, loisirs. Vous êtes aussi l'autrice d'une bibliothèque idéale que lire de 0 à 16 ans, donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans. Et puis, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'une initiative a été lancée par le Centre National du Livre, une initiative qui date de 2018, 10 jours sans écran. Initiative donc qui est une conférence de presse qui s'est tenue hier à laquelle vous étiez. Déjà, première question que je voudrais vous poser, une initiative contre les écrans lancée par le Centre National du Livre, est-ce qu'il y a un lien prouvé entre les deux ?
Oui, alors le Centre National du Livre s'associe, en fait tout est parti d'une association dans le Sud-Ouest et aujourd'hui le mouvement a pris tellement d'ampleur que cette année il va y avoir 130 000 enfants et jeunes qui vont participer à un défi 10 jours sans écran. Mmh. Alors oui, vous avez cité le Centre National du Livre, mais il y a aussi beaucoup d'associations et des collectifs d'associations qui depuis des années sont lanceurs d'alerte contre les écrans et leur omniprésence. Alors, je reviens à votre question, livre, écran. Ben, moi, je vois bien dans tout le travail que je fais pour la promotion du livre, eh bien, qu'en fait, parmi tous les obstacles entre l'enfant et la lecture, eh bien, c'est l'écran qui arrive en premier. Alors, quand on dit l'écran, il s'agit surtout des écrans ludique, tout ce temps perdu sur les réseaux sociaux, des jeux qui ne conduisent pas à plus d'ouverture de l'intelligence, voilà, tous ces écrans-là, ces écrans qui deviennent très addictifs. Donc, ces 10 jours sans écran vont proposer aux enfants, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui le 19 mai, le lancement, le défi. Mais il faut se rendre compte, pour un enfant qui passe 10 fois plus de temps sur un écran que sur un livre, le défi de s'en détacher et peut-être de retrouver le plaisir de la lecture, le plaisir d'aller dehors, de rencontrer des personnes, de s'intéresser à son environnement. Mmh. Alors, s'il retrouve le plaisir de la lecture, il va se reconnecter déjà à sa personne, à son rythme personnel. Je tiens beaucoup à cette question de rythme. Lorsque vous êtes soumis au rythme effréné de petites vidéos qui jaillissent sur un réseau social, par exemple, vous n'êtes pas maître de votre temps. Lorsque vous entrez dans un livre, vous prenez le temps de la décantation si vous en avez besoin. Un enfant peut avoir besoin de relire une phrase, d'intérioriser, de songer à un mot qu'il ne connaît pas. Vous voyez, tout ça, on se reconnecte. C'est un retour au réel, ces 10 jours sans écran.
Alors, déjà, vous avez évoqué un point que je souhaitais aborder, Valérie Daubigny, qui est, d'une certaine façon, est-ce que c'est vraiment pertinent de parler de temps d'écran? C'est-à-dire que c'est souvent de cette manière-là qu'on raisonne. En réalité, temps d'écran, c'est effectivement, est-ce que c'est la même chose quelque part de passer du temps sur TikTok? Est-ce que TikTok vaut YouTube? Est-ce que YouTube vaut les jeux vidéo? Est-ce que les jeux vidéo sont si mauvais qu'on le dit? Il me semble que vous participez aussi à une pétition contre le développement de l'e-sport à l'école. En réalité, et déjà, est-ce que tous les écrans se valent? Et même, j'ai envie de dire, au sein, par exemple, je prends les jeux vidéo, mais même au sein des jeux vidéo, sans doute qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, qui sont plus utiles que d'autres, comment on peut parler de temps d'écran en général?
En effet, vous avez raison, si l'on parle des écrans et du temps d'écran, on risque d'ailleurs d'être mal compris et disqualifié dans ce combat. Il faut effectivement se distinguer, hiérarchiser, mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une maîtrise de sa liberté. Et là, ça passe par une reconquête du temps et de la liberté de discernement d'esprit critique. Or, un enfant qui, depuis sa plus tendre enfance, parce qu'il faut vraiment vous dire que là, nous parlons aussi des 0-3 ans dans cette action 10 jours sans écran, qui est une belle action parce qu'elle mobilise tous les membres de la famille, tous les acteurs et les lieux d'accueil dans lesquels sont les enfants la plupart de la journée. Eh bien, il y a les crèches. Mmh. Et oui, alors on se dit non, mais n'exagérons pas. Si 0-3 ans, beaucoup d'enfants sont soumis aux écrans, sont calmés avec les écrans. Hein. Donc là, on ne peut pas parler d'écran utile, intelligent. Et lorsqu'on a grandi comme ça, avec sa petite dose, parce que vraiment, on peut tout à fait en parler d'addiction lorsque l'on parle des écrans, lorsqu'on a été nourri. On ne peut pas parler de choix. On ne peut pas parler d'écran utile. Donc, on le dit bien dans cette action 10 jours sans écran, ce sont les moments qui sont dits ludiques. Mmh. Vous avez évoqué cette question qui est extrêmement grave de l'e-sport à l'école. Vraisemblablement, d'ici la fin du mois de mai, le Premier ministre va annoncer que les écoles, les collèges, notamment, à la suite d'une grande expérimentation dans l'Académie de Versailles, va instaurer une heure et demie de e-sport. Alors déjà, là, pour le coup, disqualifions ce mot « sport », puisqu'il s'agit casque sur les oreilles, yeux rivés sur un écran, de jouer peut-être en réseau. Oh oui, mais ça, ce n'est pas une véritable rencontre. De jouer à un haut niveau, avec tous les mots du sport, la compétition, la sélection, oui, les championnats, à l'école, avec du matériel qui, la plupart du temps, est fourni par des firmes numériques multinationales qui ont tout intérêt à rendre addicts les enfants, les jeunes, par ce biais-là, et l'éducation nationale s'en fait le complice. C'est vraiment à dénoncer. Vous avez évoqué cette pétition. J'invite vraiment, mais fortement, nos auditeurs à se rendre sur change.org. Non à l'e-sport, non aux jeux vidéo dans les écoles. D'ailleurs, ils ont tout à fait qualifié. Et allez soutenir, parce que c'est pas possible cette...
Surtout qu'on imagine qu'il y a quand même bien d'autres priorités d'une manière générale pour l'éducation nationale, et que c'est peut-être... Enfin, sensibiliser les enfants à l'e-sport, c'est peut-être pas la première chose à faire, voire c'est peut-être même la dernière. Valérie Daubigny, simplement je voudrais revenir sur un point, c'est que votre initiative de 10 jours sans écran, elle existe depuis 2018. En fait, est-ce qu'on a déjà pu observer des résultats concrets? En fait, est-ce que ça marche finalement? Est-ce que les enfants s'y tiennent? Est-ce qu'ils n'essayent pas de tricher? Est-ce que finalement ils ne voient pas ça simplement comme une punition? Est-ce que ça a des effets?
Alors je vais préciser, c'est depuis 2018.
Oui.
Nous avons pu observer que les familles, les enfants marchent, ça fonctionne. L'année dernière, 70% ont tenu pendant 7 jours, ce qui est déjà extraordinaire, 41% pendant les 10 jours. Et pourquoi ça fonctionne? Mais parce que ça ne tombe pas comme ça. Vous avez très bien parler de punition, ce n'est absolument pas l'esprit. Il y a d'abord un travail en amont pour préparer, pour fédérer, pour qu'il y ait l'adhésion des enfants. Lorsque les classes adhèrent à ce mouvement 10 jours sans écran, c'est préparé en amont, on va trouver des alternatives. Comment allons-nous utiliser ce temps? Comment allons-nous combler le manque? Eh bien, le manque va être comblé par des activités multiples, extérieur. Je prends l'exemple de la mairie de Viroflay, qui se mobilise beaucoup, à l'instar de beaucoup, beaucoup d'endroits en France, dans le sud-ouest, Bordeaux, Marseille. C'est vraiment extraordinaire. C'est un très, très beau mouvement. Mmh. À Viroflay, eh bien, mercredi après mercredi, la mairie propose d'accompagner les enfants avec... Il va y avoir des concours d'éloquence. On va se rendre dans des boulangeries pour voir le travail concret du boulanger. Dans d'autres endroits, il y a des associations qui viennent en soutien, des associations de pêcheurs. des sportifs de haut niveau qui s'associent également. On va donc combler, rouvrir les fenêtres, vous voyez, et puis se réancrer. Ce que je trouve navrant revenons à cette histoire d'e-sport à l'école, c'est qu'en fait, ça vous déracine tous ces jeux, tout ce temps passé. Il est la plupart du temps culturellement déraciné. Mmh. Là où les enfants ont besoin d'ancrage local, d'ouvrir les yeux, même d'ancrage sensoriel, eh bien, on va leur fournir une culture qui n'est pas ancrée, qui est interchangeable. Mmh. Et là, c'est très grave aussi dans la transmission. Je vais vous citer, parce que ça me revient, pardon, un enfant l'année dernière qui concluait en disant « Eh bien, je suis heureux d'avoir participé aux 10 jours sans écran, parce que finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir parler avec mes parents. Mmh. »
Ouais, c'est pas étonnant. Enfin, d'une certaine façon, je pense qu'on maîtrise encore assez mal l'impact négatif que peut avoir la surabondance d'écran. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui sont sorties là-dessus. On a parlé il y a quelques mois sur Ligne Droite. Vous pouvez retrouver ça, je pense, sur notre chaîne YouTube, chers auditeurs. Mais effectivement, ou sur notre, d'ailleurs, sur nos sites de podcast également. Maintenant qu'on a développé ça, mais effectivement, même le temps d'écran a également un impact sur la santé parce que les enfants sortent moins dehors, évidemment, ça a un impact sur la vue, évidemment, ça augmente largement les myopies. Mais il y a un point dans tout ça, c'est que tout ça, encore une fois, part d'une volonté de faire lire à nouveau les enfants, d'une certaine façon, pour nos auditeurs qui auraient des enfants et qui auraient du mal à les faire lire, qui auraient des petits-enfants et qui voudraient justement les aider à se mettre à la lecture, si ce n'est mettre de côté les écrans, comment est-ce qu'on peut justement les appeler, les enraciner à nouveau ?
Eh bien, c'est un défi. Il faut reconquérir le temps et ça, on le fait tous ensemble. Parce que, observons-nous, les parents, combien de temps nos enfants nous voient avec un livre entre les mains dans une journée ? Combien de temps nous voient-ils avec un smartphone entre les mains ? Mmh. Déjà par l'exemple. Par le plaisir du partage. On ne peut pas imposer aux enfants, pose ton téléphone, prends un livre. Ça va peut-être marcher si vous avez des enfants très dociles, mais vous n'ancrerez pas profondément le goût. Le goût, il s'ancre par l'exemple, par la discussion, par la proposition. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Quand vous pensez que les foyers ont en moyenne 10 écrans par foyer, mais c'est incroyable, ouais. Eh bien, entourons-nous de livres déjà. L'enfant, je reviens à l'enfant de 0 à 3 ans qui aura grandi dans un univers où il aura vu des livres, tout simplement, eh bien, cela fera partie de son univers naturel. Et puis, obstacle à la lecture et au goût de la lecture, c'est la facilité. C'est une difficulté de lire. En plus, l'apprentissage de la lecture aujourd'hui n'est pas uniforme. Il y a vraiment il y a beaucoup d'enfants qui restent sur le bord du chemin et qui ensuite, on arrive en quatrième, on ne sait pas très bien lire. Il y a de jeunes parents aujourd'hui qui ont du mal à lire. Hein. Il faut vraiment s'en rendre compte. Eh bien, là aussi, à petite dose, par la lecture orale, par la lecture de livres qui plaisent aux parents. Quand vous lisez un livre à vos enfants, il faut que ce livre vous plaise. Oui. Cela transpire. Mmh. Voilà. Donc tout cela, c'est par le partage. Ça demande de l'investissement, mais on est tellement récompensé au centuple.
Et ben voilà, merci. Je pense qu'on finira par cette note d'espoir, Valérie Daubigny. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, montrer un bel exemple à ces enfants et justement les éloigner du virtuel pour les ramener un petit peu dans le réel. C'est également ce qu'on essaye de faire ici à Ligne Droite, à Radio Courtoisie finalement. Belle mise en abyme. Merci Valérie Daubigny. On vous dit à très bientôt ici sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de Ligne Droite, c'est la fin de notre matinale pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mais pour que demain arrive, eh bien, tel Moctezuma sacrifiant un être humain, je vous demande de sacrifier quelque chose.
Je vous ai demandé de faire court, Alexandre, en fait.
Effectivement, que la matinale puisse survivre au prochain soleil.
Merci pour les 3 secondes que vous me laissez. Soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire votre don à Radio Courtoisie dès maintenant et lui permettre de garder sa grande indépendance et sa liberté de ton. Et nous vous remercions de vous aider ainsi à défendre vos idées.
Voilà, vos chèques, évidemment. Alors aussi, vous pouvez suivre le programme du jour.
Dans quelques instants et en direct, les mardis de la mémoire d'Anne Collin pour l'exposition « La marine et les peintres, 4 siècles d'art et de pouvoir » avec Bertrand de Sainte-Marie, commissaire de l'exposition. À midi, le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine d'Olivier Toutrebante pour causerie avec une amoureuse du patrimoine. Il recevra Stéphanie de Saint-Léon. À 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 17h30, restons courtois avec Richard de Sèze. Aujourd'hui, liberté et création avec Pascal Ménadier, secrétaire général de la rédaction du JDD, et Chloé Frammery pour son livre « La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020 ». 19h30, le libre journal de la vie française de François Costantini. 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier. Et à 21h30, la soirée musicale de Virginie. Aujourd'hui, le feu sacré du corps.
Superbe. Et demain, nous, on reçoit Arnaud Stéphan à l'antenne. J'aurai le plaisir d'animer. Je vous dis donc à demain 7h.
À demain, Alexandre.